Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Se rencontrer, se parler. Appel sur l'actualité est à Niamey.
De retour dans la capitale du Niger, toujours en public, au centre culturel Oumarou Ganda. Nous poursuivons notre débat sur la présidentielle de l'année prochaine. Tous les regards, vous le savez, sont tournés vers décembre 2020 et cette première alternance pacifique à la tête du pays. L'élection sera-t-elle apaisée? Sera-t-elle transparente? On en parle ce matin avec le public et nos invités, le président de la commission électorale, Issaka Souna, le ministre délégué chargé de la sécurité publique, Al-Kachalada, tout comme Moussa Modi Al-Zouma du principal parti de l'opposition et Moussa Harouna du MNSD, parti appartenant à la majorité. On s'était quitté il y a 10 minutes en parlant justement de la composition de cette commission électorale. L'opposant que vous êtes, Moussa Modi Al-Zouma, crie haut et fort qu'elle est monocolore, cette commission électorale. J'aimerais entendre vos arguments.
D'abord, une précision, nous n'avons jamais dit qu'elle est monocolore. Mais elle est majoritairement contrôlée par le PNDS. Et à titre, à preuve, sur les 14 membres actuels, du moins les 12, parce que les non-affiliés n'ont pas encore désigné les deux membres qui doivent siéger à la CENI pour leur compte, sur les 12, 7 sont formellement reconnus comme étant des militants du PNDS. Et donc 3 sur 4 du bureau, oui. Le président, le vice-président et le rapporteur en second sont tous du PNDS, chacun le sait.
Le président a démenti tout à l'heure, avant le journal.
On n'a pas besoin de... Mais qui peut brandir ici sa carte de militant du PNDS? Moussa Harouna est là, s'il est objectif, il va vous le dire. Il est bel et bien du PNDS. Chacun le sait au Niger. Oui. Le vice-président est PNDS.
Alors,
le rapporteur Moussa Lada est PNDS.
Alors, justement, quelle sera votre stratégie dans les mois à venir? Vous allez continuer à boycotter cette commission électorale?
Nous allons boycotter parce que nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. Nous sommes là pour aller aux élections et les remporter.
Oui.
Et nous ne sommes pas là pour faire de la figuration ni au CNDP, ni à la CENI.
Monsieur le ministre, que répondez-vous à votre voisin de gauche?
Ils vont aux élections pour les emporter. Donc tant qu'ils ne les emportent pas, ils ne vont pas aux élections. C'est très clair. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair que cela. Maintenant, dire que la CENI est monocolore ou qu'elle n'est pas indépendante, mais c'est totalement absurde. Permettez-moi de faire un petit peu l'historique de la CENI. On était l'un des premiers pays à créer la CENI.
On ne va pas refaire l'histoire de
tout à
la
fait,
commission.
Tout à fait, mais il est important de rappeler tout de même que la CENI est un organe constitutionnel qui est totalement indépendant et autonome. Alors, les membres, il y a quand même 5 membres de l'opposition, 5 membres de la majorité, il faut le rappeler. Il n'y a pas de déséquilibre ici. Il y a 2 membres de l'administration qui n'ont pas de droit de vote, qui n'ont pas de voix délibérative. Et donc, le caractère équilibré de la CENI ne fait absolument aucun doute.
Donc, quoi qu'il arrive, le processus électoral ira jusqu'au bout avec ou sans l'opposition au sein de la commission électorale.
Mais écoutez,
je pose une question.
Les élections, la Constitution impose d'organiser des élections. Il y a des échéances électorales qui sont et des délais électoraux qui sont prévus par la Constitution.
Et
Constitution sera respectée.
Le président de la Commission électorale acquiesce vos propos. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Wan.
Dans le public Abdoulaye, vous nous parlez, vous, du code électoral?
Oui Wan, bonjour l'assistance. En fait, j'aimerais vraiment moi m'appesantir sur l'article 8 du code électoral. Parce que c'est là où il y a le couac en réalité. C'est ceux qui posent le problème au Niger.
Que dit l'article 8 pour tous ceux qui nous écoutent à travers le monde?
L'article 8 dit que toute personne condamnée au-delà de 1 an de prison ne peut plus être éligible et sur le plan présidentiel. Voilà en fait le problème.
Pourquoi il y a problème?
Et cela élimine de facto le chef de file de l'opposition.
Hamamadou.
Donc moi j'en appelle aux représentants de l'APR et de la MRN ici. Vous êtes là au nom des Nigériens. J'espère que dans une proposition en 2016, ce même article, on l'a ramené à 3 ans. Mais pourquoi ne pas vous entendre, cette classe politique? Dans tous les cas, la loi est là pour le peuple, mais le peuple est souvent au-dessus de la loi.
Monsieur le ministre vous a entendu. Qu'avez-vous envie de répondre? Vous êtes directement pris à partie concernant cet article 8 qui, de facto, effectivement, disqualifie le principal opposant, en tout cas celui qui, il y a 5 ans, était arrivé au second tour de la présidentielle. Oula, vous venez avec vos livres de droit.
Ah oui, je savais que cet article allait être évoqué. Et je suis venu avec tous les codes électoraux qui ont été adoptés
depuis,
au Niger.
Depuis quand?
Depuis 1992, monsieur.
Je regarde, effectivement.
Regardez.
Oh là, ah oui, 2017, 2013, alors,
1992.
Et alors, ouvrez-le à la page. Je m'approche, je me fais témoin. Hein. Article 8.
Article 8. Ne doivent pas être inscrits sur une liste électorale les individus condamnés pour crime et non réhabilités. Les individus condamnés pour délit à une peine d'emprisonnement ferme égale ou supérieure à un an et non réhabilités.
On va s'arrêter là parce que l'essentiel est dit.
Non, ce n'est pas fini.
Attendez, mais ça veut dire que déjà en 1992, en 1992, si vous permettez, monsieur le ministre.
Parce que je l'ai entendu évoquer,
oui.
Je ne sais plus, 2000 ou quelque chose comme ça.
Je parle de la proposition.
Cet article n'a jamais fait l'objet de modification.
Alors,
après 27 ans que l'on se réveille,
oui.
Monsieur le ministre,
Abdoulaye,
Monsieur le ministre, s'il vous plaît,
de cette disposition.
Monsieur le ministre,
je
s'il
rappelle
vous plaît.
Également qu'il faut être condamné simplement à 3 mois de prison, oui. Y compris au Sénégal, pour ne plus pouvoir être candidat à des élections.
Voilà les propos, les arguments
Monsieur
du ministre.
Monsieur le ministre,
rapidement, Abdoulaye.
J'ai dit qu'en 2016, lors de la proposition du code électoral, il était inscrit 3 ans.
Moi, je suis un juriste. Une proposition n'est pas la loi.
Voilà. Alors, c'est fait que.
La loi, c'est l'acte qui est en vigueur. Et les dispositions qui sont en vigueur depuis 27 ans, ce sont celles-là.
Alors, que l'opposition s'exprime, qu'on entende évidemment son représentant, Moussa Modi Al-Zouma.
Je suis très surpris, je ne dirais pas choqué, que des gens qui ont passé toute leur mandature à violer la Constitution parlent de respect de Constitution. L'article 8, pour nous, est le résultat d'une procédure politique et non judiciaire. Il y a eu violation de l'immunité parlementaire de Mamadou. Il y a eu violation de la présomption d'innocence et il y a eu renversement des charges de la preuve. Ça, c'est incontestable.
Donc pour vous,
vous n'allez pas le contester.
Pour vous, il n'y a pas de doute. Je voudrais que le représentant de la majorité, j'ai l'impression qu'il s'assoupit au fur et à mesure qu'on parle, puisque ce débat, vous le trouvez surréaliste, ce débat, sur l'article 8.
Bon, ce débat, je le trouve un peu réaliste, mais c'est comme je l'ai dit, c'est un tapage politique. On en fait comme une forme de propagande politique. Parce que l'article 8 ne concerne pas que le candidat aux élections présidentielles. L'article 8 est d'ordre général. Ça concerne tout citoyen qui veut postuler à un poste électif. Donc ça peut être un président, ça peut être un député, ça peut être un conseiller. Donc ne le personnalisons pas. C'est des dispositions d'ordre général. Maintenant que nous sommes dans un élan de combat politique, effectivement, on essaie de le coller à un individu. Le nombre de 3, c'est une proposition d'un comité technique que la majorité a eu à boycotter. Maintenant, elle s'en fait sienne parce qu'elle pense que ça pourrait trouver aussi une perche pour pouvoir régler un problème. Mais revenez au centre de débat,
alors,
qui est le CNDP.
On n'est pas là.
C'est le débat qui est appartenu à la classe
politique. Le débat, à mon avis, va se poursuivre autour de cet article 8 dans les prochains mois. Je voudrais qu'on avance et je donnerai évidemment dans un instant le micro au président de la commission électorale, puisque là aussi, il sera en partie interpellé par Aboubacar. Bonjour.
Oui, bonjour, Juan Gomez.
Bonjour, Aboubacar. 21 ans.
Oui.
Vous n'avez jamais voté, vous, encore, alors?
Pas encore.
Pas encore. Ce sera donc théoriquement l'année prochaine pour vous. Le fichier biométrique vous interpelle. Pourquoi ?
Tout d'abord, il faut savoir que les moyens qui ont été mis en place pour recueillir, pour mettre en place ce fichier, il y a un problème, je dirais, problème logistique à ce niveau. On a déployé pour recueillir les empreintes biométriques des appareils. Il y a des ordinateurs et puis il y a des tablettes. Les tablettes seront utilisées pour des endroits où il y a une difficulté d'accès. Et on se retrouve qu'il y a plusieurs tablettes qui sont défectueuses. Comment pallier à ce problème? Parce qu'il y a au préalable un calcul qui a été fait. En fonction du nombre qu'on pourra recenser par jour, on pourra atteindre toute la masse, toute la couche sociale en un temps de 6 mois, comme il les avait.
Et le calendrier est quand même serré, parce que le premier tour est prévu dans 13-14 mois, pour être précis. Le président de la commission électorale, vous avez la chance, il est devant vous, il va vous répondre. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde que c'est la première fois que le Niger se dote d'un fichier biométrique. Cette histoire de tablette, ces problèmes de tablette, monsieur le président, comment allez-vous le résoudre ?
Cette histoire de tablette est effectivement posée et vous avez raison. Nous avons commandé 3000 kits PC et 500 tablettes. Ces tablettes, à un moment donné, se sont révélées comme comportant un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été dénoncés à l'opérateur partenaire, et l'opérateur partenaire s'est mis à l'œuvre, y compris dimanche dernier. Ces tablettes ont été testées juste derrière le fleuve et il est apparu que les dysfonctionnements naguère constatés ont été corrigés et que désormais les tablettes, sous réserve d'une confirmation qui se fait aujourd'hui, vont être redéployés sur le terrain pour être réutilisés. Cela dit, vous avez raison de vous inquiéter parce que le déploiement des tablettes devait permettre de faire un enrôlement plus rapide. Quelques jours de retard, effectivement, vont être enregistrés du fait du retrait de ces tablettes et du temps mis pour les corriger, mais la CENI fera tout pour produire son fichier électoral dans les délais légaux.
Voilà la réponse du président de la CENI. Aboubacar, vous aviez un second point.
Également, pour se faire recenser, il faut des pièces d'identité. Il y a eu des séances de création de cartes qui ont été organisées, mais on n'a pas touché toute la couche sociale. Pour qu'il y ait une élection, comme on le prétend, inclusive, crédible, transparente et tout, il faudrait bien que tout le monde puisse avoir accès au vote. Et si au préalable, on n'a pas accès au vote parce qu'on n'a pas de pièces, je me demande comment les élections seront crédibles.
Oui, c'est une bonne remarque, effectivement, Aboubacar. Moi, Juan Gomez, je suis nigérien, je n'ai pas de pièces d'identité. Comment je peux justifier mon identité si je n'ai pas ce document? Comment je peux être enrôlé? Comment mon nom peut apparaître sur le fichier électoral biométrique, Monsieur le Président?
La personne qui n'a pas de pièces d'identité peut être recensée de voix. Nous avons voulu organiser ces audiences foraines pour permettre aux Nigériens qui n'en ont pas d'aller en chercher. Et cela, nous l'avons commencé depuis le mois de juin dernier.
Mais concrètement?
Concrètement, ces pièces, c'est des audiences foraines,
oui,
des juges, des maires qui sont mis ensemble pour élaborer ces pièces pour les donner à l'ensemble des Nigériens qui en ont besoin.
Et là, il ne peut pas y avoir de fraude?
Il n'y a pas de possibilité pour qu'une personne soit prise pour une autre. Il n'y a pas de possibilité pour que quelqu'un d'autre vote pour un autre.
Monsieur le Président, le représentant de l'opposition souhaite prendre la parole. Le temps passe très très vite.
Une carte d'électeur est remise à la personne qui est inscrite et c'est sur la seule présentation de cette seule carte que la personne pourra voter sur un registre où les photos de toutes les personnes enrôlées figureront. Donc votre photo sur la carte devra correspondre avec celle qui est sur le registre.
Bien, voilà qui est dit. Moussa Modi Alzouma.
Dans le code électoral, ils ont déjà inséré la possibilité d'organiser la fraude par anticipation en amont. Parce que, à défaut de pouvoir voter par témoignage, ils ont inséré l'article 201 du code électoral qui permet l'enrôlement biométrique par témoignage.
Oui.
Alors, si ça revient à la même chose,
ça revient...
c'est organiser la fraude par anticipation en amont.
Monsieur le ministre, on organise la fraude?
Mais enfin, c'est totalement ridicule. Mais enfin, ce sont des propos totalement ridicules et absurdes. Je vais vous dire pourquoi. Pour ce qui concerne y compris le témoignage. Mais lorsque sa vieille grand-mère, qui n'a pas pu obtenir un acte de naissance, vient en présence du chef du village, ou ma grand-mère, si vous voulez, ça n'a pas d'importance, en présence du chef de village, et en présence des autres membres de la famille pour dire c'est bien Mariama Seyni. Tout le monde est présent et atteste qu'il s'agit bien de Mariama Seyni et elle est enregistrée.
Possible.
Donc ça se fait en présence de tout le monde, c'est public. Il n'y a pas de possibilité de fraude.
Parce que dans le public, il y aura forcément quelqu'un qui peut dire mais non, ce n'est pas la grand-mère de Monsieur Seyni.
Ce n'est pas la grand-mère de Monsieur
Untel.
Donc où est-ce que donc ils sont toujours dans l'imagination de la fraude préparée à l'avance.
Allez, il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on aborde encore une ou deux thématiques avec Moussa. Bonjour Moussa.
Bonjour Monsieur Juan Gomez.
On vous écoute avec les invités.
Ok, moi mon inquiétude, je vois que les gens qui organisent les élections actuellement sont habitués deux fois. Il faut attacher l'adversaire pour gagner. Et maintenant, il faut éloigner les adversaires et battre campagne. On voit le ministre de l'Intérieur qui est chargé de sécuriser les Nigériens
au lieu de faire ça...
Alors, le ministre de l'Intérieur qui est
Bazoum Mohamed...
Oui, qui a été désigné par le parti au pouvoir...
Par le parti au pouvoir en tant que candidat. Au lieu de faire sécuriser les Nigériens, il a la tête ailleurs, il est en train de battre campagne avant l'heure. Il a été rappelé à l'ordre par l'opposition un moment. Il a reconnu qu'il a bâti campagne avec le véhicule de l'État. Il ne le ferait plus, mais il continue de faire campagne avant l'heure.
Alors, vous permettez...
Il faut que... Il cesse de battre campagne avant l'heure. Il faut que les gens démarrent ensemble. Oui.
Alors,
voilà,
je vais demander au président de la commission électorale, c'est quand même lui qui organise ces élections. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression, monsieur le président, que le ministre de l'Intérieur, qui est ministre candidat, profite effectivement des moyens de l'État pour déjà être en pré-campagne?
Concernant le ministre Bazoum, je voudrais dire qu'il s'agit des manifestations des partis politiques. La campagne électorale est ouverte par décret et elle se ferme par décret.
Et la campagne n'a pas commencé.
Avant l'ouverture de la campagne officielle, les partis politiques, quelle que soit la forme de manifestation, ont le droit de rencontrer leurs militants, d'échanger avec eux, de les inciter et de partager avec eux leur programme politique.
Donc pour vous, il n'y a pas d'illégalité?
Il n'y a pas d'illégalité quand un ministre ou n'importe quel chef de parti politique va sur le terrain pour convaincre ses militants de rester fidèles à son parti, éventuellement le moment venu de leur donner leur voix.
Il nous reste une poignée de minutes, on va terminer, ce sera le dernier auditeur malheureusement, puisqu'après on est obligé de rendre l'antenne. Bonjour madame.
Bonjour Juan.
Allez-y, on vous écoute.
Je voudrais parler de la sécurité. Nous sommes un pays attaqué. Nous avons un problème de sécurité dans notre pays. On va vers des élections. Vous voyez bien l'état dans lequel nous sommes en train de faire un débat. On n'arrive même pas à s'entendre autour d'un débat. On est en train de se chamailler et nous sommes un pays attaqué. Et nous allons organiser des élections. Nous avons des scrutins à sécuriser. Les électeurs qui vont aller dans des urnes, ils doivent être sécurisés. Les bureaux de vote devraient être sécurisés. Tout ça, ce sont des enjeux nationaux vitaux pour notre pays.
Justement, nous avons le ministre délégué chargé de la sécurité publique qui va vous répondre. Évidemment, tout le monde pense aux attaques terroristes, aux djihadistes.
Mais évidemment, on ne va pas nier que la situation est particulière. Mais il faut aussi dire que ce ne sera pas la première fois que le Niger va organiser des élections dans de telles conditions. Je veux dire, les premières élections démocratiques qui ont été organisées au début des années 90, mais c'était au moment où il y avait quand même la rébellion Touareg, tout le monde le sait, et elle était encore beaucoup plus vivace que ce que nous connaissons actuellement au niveau de nos frontières. Donc nous sommes habitués à organiser des élections dans de tels contextes, vraiment il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Est-ce que l'opposition craint une élection présidentielle secouée par les attaques djihadistes? Et ce sera votre mot de la fin.
Non, je crois que notre inquiétude, elle est plutôt liée à la dynamique interne au niveau des électeurs nigériens. Parce que si... Tant que le dit le porte-parole du gouvernement, avec ou sans l'opposition, ils vont aller aux élections. Nous disons clairement, sans l'opposition, il n'y aura pas d'élection du tout.
Oui.
Nous ne sommes pas prêts à accepter une réédition de ce qui s'est passé en 2016.
Moussa Mara, de la majorité, votre mot de la fin.
Le contexte nigérien est un peu similaire au contexte malien. Et dans le même contexte, ils ont organisé des élections. Et l'une des missions de la CENI, c'est d'assurer la sécurisation, effectivement, des hommes et des personnes.
Monsieur le Président de la Commission électorale, votre mot de la fin.
Merci. Je voudrais dire que l'élection, en particulier celle qu'on espère d'alternance, est un rendez-vous entre le peuple et les gouvernants. Je veux dire que les jeunes que nous sommes, que vous êtes ici, et je me compte parmi les jeunes, sont invités à... Participer, c'est aller voter parce que chaque vote compte et parce que chaque vote détermine la volonté de son auteur.
Merci. Et ce sera le mot de la fin. Je suis désolé, on va nous couper la parole. On va retrouver dans un instant Caroline Paré qui est à Paris pour Priorité Santé. Si vous nous écoutez à Niamey, je vous attends très nombreux à 16h. Cet après-midi, ici au Centre Culturel Oumar Ouganda, on enregistrera deux émissions, Appel sur l'actualité, le débat africain. Donc venez très nombreux. Avant de nous quitter, merci d'applaudir nos invités, d'avoir dialogué avec vous. Merci d'applaudir également